Amaranta Ursula et le petit Aureliano devaient se souvenir du déluge comme d'une époque heureuse. En dépit de la sévérité de Fernanda, ils barbotaient dans les flaques de boue du patio, chassaient les lézards pour les écarteler et s'amusaient à empoisonner la soupe en y jetant de la poudre d'ailes de papillon quand Sainte Sophie de la Piété ne faisait pas attention. Ursula était pour eux le jouet le plus divertissant. Ils la prirent pour une grande poupée décrépite qu'ils conduisaient ou portaient dans tous les coins, déguisée à l'aide de vieux chiffons multicolores et le visage barbouillé de suie ou de rocou, et ils faillirent un jour lui arracher les yeux comme ils le faisaient au crapaud avec le sécateur. Rien ne les mettait en joie comme ces radotages. En effet, il dut se passer quelque chose dans son cerveau durant la troisième année de pluie, car elle perdit peu à peu le sens de la réalité et se mit à confondre l'époque présente et certaines périodes reculées de sa vie, à tel point qu'il lui arriva une fois de rester 3 jours à pleurer inconsolable la mort de Petronilla Iguaran, sa propre arrière-grand-mère, enterrée depuis plus d'un siècle. Elle sombra dans un état de confusion si extravagant qu'elle croyait voir, dans le petit Aureliano, son fils, le colonel, aux environs de l'époque où on l'avait emmené faire connaissance avec la glace. Et dans le José Arcadio, qui se trouvait alors au séminaire, son aîné qui était parti avec les gitans. Elle parla tant et si bien de la famille que les enfants apprirent à lui organiser des visites imaginaires de gens qui n'étaient pas seulement morts depuis longtemps, mais avaient vécu à des époques tout à fait différentes. Assise dans son lit, les cheveux couverts de cendres et le visage dissimulé sous un foulard rouge, Ursula était heureuse au milieu de tout ce parentage irréel que les enfants décrivaient sans omettre de détails, comme si en vérité ils l'eussent connue. Ursula s'entretenait avec ses ancêtres d'événements antérieurs à sa propre existence, prenait plaisir aux nouvelles qu'ils lui donnaient et pleurait avec eux sur des morts bien plus récents que ceux-là même qui se trouvaient rassemblés. Les enfants ne tardèrent pas à remarquer qu'au cours de ces rencontres de fantômes, Ursula glissait toujours une question destinée à établir quel était celui qui avait apporté à la maison, pendant la guerre, un Saint-José en plâtre grandeur nature pour qu'on le lui gardât jusqu'à ce que la pluie eût cessé. C'est ainsi qu'Aureliano le Second se souvint de la fortune enterrée en quelque endroit qu'Ursula était seule à connaître, mais toutes ces questions furent vaines. Comme toutes les manœuvres astucieuses dont il eut l'idée, car elle paraissait conserver dans les labyrinthes de son égarement une certaine marge de lucidité, qui lui permettait de défendre ce secret, qu'elle ne devait seulement révéler à celui qui ferait la preuve de ce qu'il était le véritable propriétaire de l'or enseveli. Elle était si habile, et sa mémoire si exacte, que le jour où Aureliano le Second fit la leçon à un de ses compagnons de débauche, pour qu'il se fît passer pour celui auquel devait revenir la fortune, elle le laissa s'embrouiller au fil d'un interrogatoire des plus précis, semé de pièges subtils. Convaincu qu'Ursula emporterait le secret dans sa tombe, Aureliano le Second embaucha une équipe de terrassiers, sous prétexte d'aménager les canaux d'écoulement dans la cour et l'arrière-cour, et lui-même se mit à sonder le sol avec des pics en fer et toutes sortes de détecteurs de métaux, sans rien trouver qui ressemblât à de l'or au bout de 3 mois de fouilles exhaustives. Plus tard, il s'en remit à Pilar Ternera dans l'espoir que les cartes y verraient plus clair que les terrassiers. Mais elle commença par lui expliquer qu'il serait vain d'essayer tant que ce ne serait pas Ursula qui couperait le jeu de cartes. En revanche, elle confirma l'existence du trésor, précisant même qu'il s'agissait de 7214 pièces de monnaie enterrées dans 3 sacs en toile goudronnés, trélingués avec du fil de cuivre, dans un cercle de 122 mètres de rayon ayant pour centre le lit d'Ursula. Mais elle le prévint qu'on ne le trouverait pas avant que la pluie eût cessé et que les soleils de 3 mois de juin consécutifs eussent changé tous les bourbiers en poussière. Pour Aureliano le Second, l'abondance et la méticuleuse imprécision de ces données parurent tellement s'apparenter aux histoires de spiritisme qu'il persévéra dans son entreprise, bien qu'on fût en août et qu'il eût fallu attendre au moins 3 ans pour remplir toutes les conditions de la prophétie. Ce qui le laissa d'abord stupéfait, bien que sa confusion s'en trouvât augmentée d'autant, ce fut de constater qu'il y avait exactement 122 mètres du lit d'Ursula à la clôture de l'arrière-cour. Fernanda appréhenda qu'il fût tout aussi fou que son frère jumeau quand elle le vit effectuer ses mesures, et plus grave encore, quand il donna l'ordre aux équipes de terrassiers d'approfondir d'un mètre toutes les tranchées. Pris d'un délire d'exploration qu'on ne pouvait comparer sans exagération à celui de son arrière-grand-père quand il cherchait la route des grandes inventions, Aureliano le Second perdit les dernières poches de graisse qui lui restaient, et son ancienne ressemblance avec son frère jumeau s'en trouva de nouveau accentuée, non seulement dans sa silhouette étriquée, mais dans cet air distant et cette attitude renfermée qu'il prenait. Il ne s'occupa plus des enfants. Il mangeait à n'importe quelle heure, boueux des pieds à la tête, dans un coin de la cuisine, répondant à peine aux questions que lui posait de temps à autre Sainte-Sophie de la Piété. À le voir travailler de la sorte, comme jamais elle n'avait rêvé qu'il en serait capable, Fernanda prit sa témérité pour de l'empressement à bien faire, sa convoitise pour de l'abnégation et son opiniâtreté pour de la persévérance. Et son cœur fut déchiré de remords à cause de la violence avec laquelle elle avait dégoisé sur sa paresse. Mais Aureliano le second n'était pas disposé alors à de miséricordieux rabibochages. Enfoncé jusqu'au cou dans un grand bourbier de branchages morts et de fleurs pourries, il mit toute l'étendue du jardin sans dessus-dessous, après en avoir terminé avec la cour et l'arrière-cour, et fora si profondément dans les fondations de l'aile orientale de la maison qu'une nuit tout le monde se réveilla terrorisé par ce qui paraissait être un cataclysme, à en juger par tous ces tremblements autant que par un épouvantable craquement souterrain, et qui n'était autre que l'affaissement et l'effondrement de trois chambres et l'apparition depuis la véranda jusqu'à la chambre de Fernanda d'une longue lézarde à donner le frisson. Aureliano le second ne renonça pas pour autant à ses fouilles. Même lorsque ses derniers espoirs furent éteints et que seules les prédictions des cartes semblèrent avoir conservé quelque sens, il consolida les soubassements où il avait fait une brèche, colmata la fissure avec du mortier et se remit à creuser sur l'aile ouest de la maison. Il y était encore la seconde semaine du mois de juin de l'année suivante, quand la pluie commença à se calmer, que les nuages reprirent de l'altitude et qu'on put s'attendre à la voir s'arrêter d'un moment à l'autre, ce qui ne manqua pas d'arriver. Un vendredi, vers 2 heures de l'après-midi, le monde se trouva éclairé d'un soleil tout bête, roux et rugueux comme de la poussière de brique, presque aussi frais que l'eau, et pendant 10 années de suite, il ne plut plus. Macondo était en ruine. Dans les rues marécageuses étaient restés des meubles démantibulés, des squelettes d'animaux couverts de lys rouge. Dernière trace des hordes d'étrangers qui s'étaient enfuis de Macondo dans un affolement semblable à celui de leur arrivée. Les maisons, qui avaient poussé comme des champignons pendant la fièvre de la banane, avaient été abandonnées. La compagnie bananière avait démonté ses installations. De l'ancienne cité clôturée ne subsistaient que les abatis, les maisonnettes en bois. Les fraîches terrasses où s'écoulaient de paisibles après-midi de parties de cartes semblaient avoir été rasées par une préfiguration de ce vent prophétique qui, des années plus tard, devait faire disparaître Macondo de la face du monde. Le seul vestige humain laissé par ce souffle déchaîné fut un gant de Patricia Brown dans l'automobile étouffée par les pensées en fleurs. La région enchantée qu'avait explorée José Arcadio Buendía à l'époque de la fondation du village, et où avaient ensuite prospéré les plantations de bananes, n'était plus qu'une immense fondrière de souches en putréfaction à l'horizon lointain de laquelle on put voir pendant plusieurs années l'écume silencieuse de la mer. Le premier dimanche où il passa des vêtements secs et partit en reconnaissance dans le village, Aureliano le second connut un moment de cruel abattement. Les survivants de la catastrophe, les mêmes qui étaient déjà à Macondo avant que le village ne fût secoué par l'ouragan de la compagnie bananière, se tenaient assis au beau milieu de la rue à profiter des premiers soleils. Leur peau gardait encore le vert d'algues et l'odeur de renfermé dont les avait imprégnés la pluie. Mais dans le fond de leur cœur, ils paraissaient satisfaits d'avoir retrouvé le village où ils étaient nés. La rue aux Turcs était redevenue celle d'autrefois, celle du temps où les Arabes, avec leurs babouches, leurs anneaux aux oreilles, parcourant le monde à échanger des cacatoès contre de la bimbleterie, trouvèrent à Macondo un bon petit coin de terre où se reposer de leurs conditions millénaires de gens du voyage. Par-delà ces années de pluie, les marchandises des bazars étaient en train de tomber en capilotade, les produits exposés devant la porte se madraient de mousse, les comptoirs étaient minés par les termites et les murs rongés par l'humidité. Mais les Arabes de la troisième génération restaient assis à la même place et dans la même position que leurs parents et grands-parents, taciturnes, impavides, sans être atteint ni par le temps ni par le désastre, tout aussi vivant ou tout aussi mort qu'il l'avait été après la peste de l'insomnie et les 32 guerres du colonel Aureliano Buendía. Il faisait preuve d'une force d'âme si étonnante devant ces décombres des tables de jeu, des voitures des marchands de fritures, des stands de tir à blanc, à la petite ruelle où l'on interprétait les rêves et prédisait l'avenir, qu'Aureliano le second, avec sa désinvolture habituelle, leur demanda à quels moyens mystérieux ils avaient eu recours pour ne pas sombrer dans cette tourmente. Comment diable ils avaient fait pour ne pas périr noyés? Et l'un après l'autre, de porte en porte, lui renvoyèrent un sourire rusé et un regard songeur, et tous lui fournirent sans se donner le mot la même réponse. « En nageant !» Petra Cottès était sans doute la seule autochtone à avoir un cœur d'arabe. Elle avait assisté à la destruction finale de ses étables et de ses écuries, emportées par la tourmente, mais elle avait fait en sorte que la maison restât debout. Au cours de la dernière année, elle avait envoyé des messages pressants à Aureliano le Second, et ce dernier lui avait répondu qu'il ne savait quand il reviendrait chez elle, mais qu'il rapporterait de toute manière un grand coffre de pièces d'or, de quoi paver toute leur chambre à coucher. Alors, elle avait raclé le fond de son cœur pour y puiser le reste d'énergie qui lui permettrait de survivre à la catastrophe. Et elle en avait ramené une rage lucide et juste, qui la fit jurer de restaurer cette fortune dilapidée par son amant et que le déluge achevait d'anéantir. Sa décision était si bien ancrée en elle qu'Aureliano le Second, revenant chez elle 8 mois après le dernier message, la trouva toute verte, mal peignée, les yeux enfoncés dans les orbites, la peau givrée par la gale, mais en train d'inscrire des numéros sur des petits bouts de papier pour organiser une loterie. Aureliano le Second resta si interloqué, et il était devenu si maigre, si solennel, que Petra Cottès eut la certitude que celui qui revenait la chercher n'était pas l'amant de toute sa vie, mais son frère jumeau. « Tu es folle !» lui dit-il. « À moins que tu ne penses mettre les ossements en loterie !» Elle lui demanda alors d'aller jeter un coup d'œil dans la chambre à coucher, et Aureliano le Second y découvrit la mule. Elle n'avait que la peau sur les os, comme sa propriétaire, mais était aussi vivante, aussi résolue qu'elle-même. Petra Cottès l'avait nourrie de sa propre rage, et lorsqu'il ne lui était plus resté de fourrage, ni de maïs, ni de racines, elle l'avait hébergée dans sa chambre et lui avait donné à brouter les draps de percale, les tapis persans, les dessus de lit en peluche, les doubles rideaux en velours et le dais brodé au fil d'or et garni de glands de soie du lit épiscopal.